Les animateurs de cette balado-diffusion n'ont aucun conflit d'intérêt à déclarer en lien avec l'épisode qui suit. Bonne écoute!
Bienvenue au Pharmascope.
Bonjour tout le monde, bienvenue à ce nouvel épisode du Pharmascope. Je m'appelle Nicolas Dugré, je suis pharmacien au CIUS Nord de l'île de Montréal.
Bonjour, moi c'est Isabelle Hébert, je suis médecin de famille à la même place au GMFU Sacré-Cœur.
Bien le bonjour, moi c'est Olivier Massé, je suis pharmacien dans le même CIUS.
Comment ça va?
Ça va bien?
Ça va bien, vous autres?
Je suis de retour. J'ai manqué le dernier épisode.
Ben oui. Qu'est-ce que tu faisais?
Je m'en rappelle plus, là.
je pense que
vous m'avez juste donné un petit congé, là.
Ça se peut. Là, c'est là qu'on crève l'abcès, comme qu'on dit.
Ben oui, parce que je suis pas de retour pour longtemps.
Ouais, longtemps étant un euphémisme.
Pour l'éternité.
Donc, c'est aujourd'hui qu'on annonce donc cette terrible, mais grande nouvelle, je présume.
Mais je pense pas que c'est une terrible nouvelle, mais je dois quitter le Pharmascope avec le cœur gros, vraiment. J'ai obtenu un poste à la FMOQ. Je vais avoir un poste de direction adjointe à la FMOQ et c'est un emploi exclusif où je dois prendre ma retraite, comme Nico aime bien me taquiner, de la clinique et de toutes mes obligations et engagements. Donc, je quitte le Pharmascope.
Ben, en tout cas, mon point de vue, du moins, c'est, je dirais, une terrible nouvelle. Là. Ça dépend de la perspective, évidemment. Là.
C'est des sentiments partagés. Donc, félicitations, Isa. C'est une bonne nouvelle pour toi. C'est une moins bonne nouvelle pour nous qui allons nous ennuyer énormément. Mais je suis sûr que tu vas exceller dans tes nouveaux défis. Là.
Merci. Je m'en vais faire de la formation professionnelle. Vous savez, c'est mon dada. Là. C'est pas pour rien que je suis avec vous depuis 2017. Et que je pense que je vais avoir beaucoup de plaisir à le faire. Mais c'est ça, ça vient avec des deuils, dont le deuil de quitter le Pharmascope.
Fait qu'il y a des gros changements à venir au Pharmascope. Ce qui est beau en plus dans ta nouvelle carrière, Isa, c'est qu'on va continuer à travailler ensemble, toi puis moi. Mais vraiment,
ben oui.
Notre rapport va être très, très, très différent parce que j'imagine que 95% de ton travail lié à moi, ça va être m'envoyer des courriels un peu de plus en plus agressifs pour me dire que je suis en retard pour te remettre des articles.
Ouais, pour les gens qui sont pas au courant, t'es pas la personne qui respecte le plus les dates d'échéance parce que tu les trouves un peu inutiles. T'es toujours prêt pour la date fatidique, là, tu sais, comme par exemple quand tu présentes, t'es toujours prêt pour le moment de la présentation. Mais la date où il faut envoyer les diapositives ou remettre un article, ça, c'est comme un peu aléatoire.
Ben, c'est parce que je dirais que c'est une décision, soyons clairs, hein, qui est prise de façon très, très unilatérale. On n'est pas consulté de l'autre côté par rapport à cette date-là. On ne peut pas exprimer notre opinion. Fait que, t'sais, moi, je suis décision partagée, hein, vous le savez. Puis je trouve que là-dessus, souvent, les gens l'échappent. Il y a peu de partage de décision. C'est comme, ah, voici, il faut que tu nous envoies ta présentation ou ton article, genre 7 mois d'avance. Puis le pire là-dedans, c'est que j'exagère même pas là, dans le cas du 7 mois d'avance. Fait que, c'est ça, il manque de partage, je trouve, là, dans la décision. Mais...
Moi, je dirais que Nico respecte toujours les échéanciers, mais c'est juste que ses échéanciers ne sont pas les mêmes que les échéanciers officiels.
Exactement.
Voilà. En fait, c'est le moment où tu as pu te libérer du temps dans l'horaire.
C'est ça.
Mm-hmm. Parce qu'on s'entend que personne ne le veut, ton horaire. Hein?
Ben, je le conseille peu. Ça c'est officiel. Je le conseille vraiment pas, en fait. Aïe. Fait que le grand départ, je sais pas. C'est ça. Des nouvelles suivront dans les prochaines semaines pour
la suite des choses, mais je vais revenir quand même pour le gala, pour terminer, pour boucler la boucle de 2025 et de mon engagement avec vous.
Avec bonne chance, bon succès.
Merci.
Tu restes-tu quand même pour l'épisode d'aujourd'hui?
je m'en allais justement là, quitter, mais non, je vais rester.
Alors, sur ces tristes nouvelles, on a quand même un épisode à faire. Puis, on t'a offert de choisir le sujet, Madame Hébert, pour ce dernier épisode. Tu as retenu l'idée de faire un épisode mise à jour fin 2025 sur la prise en charge du diabète de type 2.
Mm-hmm. Oui, parce que y a plein de nouveaux médicaments qui sont sortis dans les dernières années. Peut-être que les gens sont un peu mélangés, entre autres dans les indications, dans la couverture AMQ. Fait qu'on va faire un petit résumé.
Exact. Puis tu sais, effectivement, évidemment, au fur et à mesure des études, puis tout ça, on a discuté, je pense, pas mal des affaires qui sortaient, puis des nouvelles données. Mais c'est vrai que ça fait très, 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 très longtemps qu'on a essayé de faire un bon vieux wrap-up en bon français de tout ça. Le dernier épisode qu'on a fait sur le diabète à proprement parler, ça doit être après, pas longtemps après la mise à jour 2018 de Diabète Canada, je présume. Ouais, ça semble être vraiment septembre 2018.
Aïe, aïe, aïe.
Imagine,
C'est
hein?
longtemps.
Un méchant coup de vieux. Ouais,
Ça
non.
fait plus de 7 ans.
Elles sont
Aïe,
passées où toutes ces années? Sérieusement, si tu m'avais demandé en quelle année, j'aurais dit 2023.
ben,
On voit que mon évaluation du temps est très mauvaise.
très, très, très mauvaise.
Fait que peut-être que tu peux me remettre tes articles en retard, je m'en rendrai même pas compte.
Bon, tu vois. Fait que ben, ça vaut la peine, effectivement, je pense, puis vu tout ce temps-là passé. Fait que là, le but, on s'entend, là, on veut pas refaire l'analyse puis la description des études puis des données qu'on a faites déjà dans des épisodes antérieurs. Fait qu'on risque de vous référer à quelques reprises sur des épisodes faits dans le passé. On veut vraiment y aller au straight to the point, comme on dit, là, finalement, comment on prend en charge un patient, à quoi on peut penser, c'est quoi les enjeux pratico-pratiques auxquels on fait face régulièrement, puis ce genre d'affaires-là. Fait qu'on se lance?
Go.
On se lance.
On passe ça rapido sur la partie, je vais dire diagnostic et cible. Là. Le diagnostic, là, je le sens entre les mains des gens. Peut-être retenir quand même que dans la, en tout cas, dans au moins beaucoup, 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 beaucoup d'études de différents types sur le diabète, c'est l'hémoglobine liquide là, de façon plus contemporaine qui est utilisée. On le sait, il y a d'autres critères possibles. Tout ça, c'est bien correct. Mais je pense qu'il n'y a pas toujours nécessité de se compliquer la vie plus que nécessaire. Je n'ai pas envie de parler de prédiabète parce que, bon, à un moment donné, personnellement, je trouve que ça devient un petit peu ridicule, là, parce que, bon, le diabète est déjà un facteur de risque de complications. Le prédiabète est donc un facteur de risque de complications. J'imagine qu'après ça, on pourrait inventer le pré-prédiabète parce que, évidemment, si tu es pré-prédiabétique, tu es probablement plus à risque de devenir prédiabétique que quelqu'un d'autre. À un moment donné, je trouve que ça devient farfelu. À moins qu'un jour, quelqu'un, évidemment, nous fasse une étude où il nous montre des bénéfices clinique d'offrir une prise en charge X, Y, Z du prédiabète. Mais ce qu'on a à ce jour, puis encore des études qui sortent, hein, on n'en a pas parlé beaucoup parce que ben, ça nous intéresse peu, je présume. Mais encore des études récemment, il y en a une avec le tirzépatide qui est sorti, où on nous montre clairement que si tu donnes un antidiabétique à quelqu'un de prédiabétique, il y a moins de chances qu'il devienne diabétique.
Wow!
On a-tu vraiment besoin d'études pour ça ou...
Pense pas.
En tout cas...
Mais je trouve que cette période-là de pré-diabète, l'utilité que j'y vois, c'est vraiment de faire un j'ai juste counseling en tête, là,
Un
mais
facteur de motivation, tu
oui,
l'utilises
c'est
comme...
de motiver un patient qui aurait des habitudes de vie qui pourraient être optimisées, à dire, là, regardez où est-ce qu'on est rendu. Fait que là, les décisions que vous prenez pour votre santé vont faire si dans 2, 3, 5, 10 ans, vous allez vous retrouver du côté du diabète ou si vous allez comme vous maintenir là ou puis vous allez baisser un petit peu votre hémoglobine glycée. Donc, c'est comme surtout un point de motivation, je trouve.
Ben, j'achète cette partie-là, évidemment, si ça peut aider les patients à changer leurs habitudes de vie, puis ça restera toujours positif, là, évidemment, bouger plus, manger mieux, hein, on passe pas à côté. Mais c'est juste quand même réaliser à quel point, en plus, tu sais, tu dis passer de l'autre côté, tu sais, c'est pas une switch on-off, là, hein, cette histoire-là, le 6.5 est très arbitraire, il a changé d'ailleurs il y a un peu plus d'une dizaine d'années, là, les plus jeunes ne sont pas au courant, mais il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, il fallait que tu aies une glycée à 7% pour être diabétique. Fait qu'on promène cette switch-là un peu comme on veut sur le spectre de la glycémie, parce que la vérité, c'est que si tu regardes le risque de complications, ben oui, dans des données observationnelles, il y a une corrélation avec les valeurs de glycémie ou l'hémoglobine glycée. Tout ça est une belle courbe là, avec ses pentes plus ou moins abruptes selon le moment, mais tu sais, le risque de complications augmente bien avant 6.5. Fait que bref. On va y revenir, je pense, sur la prise en charge. Je pense que l'idée de tout ça, c'est d'utiliser les marqueurs de glycémie comme un morceau du casse-tête, mais pas comme le casse-tête à résoudre. Je pense que c'est là qu'on met beaucoup trop d'énergie. On peut faire un petit rappel d'ailleurs, si vous voulez, là, sur les fameuses cibles d'hémoglobine glycée. On en a déjà parlé. La science a pas vraiment évolué de ce côté-là. En fait, on a toujours les mêmes cinq grandes études randomisées contrôlées là, qui ont questionné l'idée de cible et d'efficacité des traitements. Fait que, tu sais, dans les années 90, on avait deux grosses études UKIP-DS où, bon, c'était des vieilles études. Fait qu'on prenait des patients diabétiques de nouveau. On les suivait pendant une dizaine d'années, quand même, des études très, très longues. Puis là, ben, dans un groupe, on faisait un traitement plus intensif, dans l'autre groupe, moins. La partie vieille étude, c'est un peu difficile de décrire avec précision le groupe intensif puis le groupe moins intensif, parce que c'était pas juste des cibles d'hémoglobine glycée, là, mettons, dans UQPDS 33, dans le groupe intensif, on ciblait une glycémie en bas de 6 millimoles par litre. En tout cas, légèrement difficile à extrapoler une pratique contemporaine, mais quand on regarde à la fin de ces études-là, les hémoglobines glyquées, ben on avait des glyquées autour de 7% et un petit peu plus dans les groupes intensifs, des glyquées autour de 8% dans les groupes pas intensifs. Puis ce que ça a montré, ben c'est oui, une diminution de certaines complications, mais soyons très honnêtes, on ne parle pas de chiffres très, 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 très élevés, là. Mettons à UQPDS 33, pas de différence sur la mortalité, pas de différence sur les infarctus du myocarde, pas de différence sur les AVC, mais une diminution de 5 événements liés au diabète par 1000 patients année. On se rappelle quand on met des affaires par 1000 patients d'habitude, c'est parce que ce n'est pas des gros chiffres, là. Sinon, on
Oh
les
non,
mettrait
c'est ça.
par 100. Puis quand on regarde
Puis
ces.
événements liés au diabète, qu'est-ce que c'est
Ben, c'est ça,
exactement?
c'était un ramassis d'un paquet d'issues. Puis dans les faits, quand on regarde le 5 événements, ben, c'était beaucoup des photocoagulations rétiniennes, là. Fait que, un petit quelque chose, pas une grosse affaire. Pour une étude quand même de 10 ans, de presque 4000 participants, où au bout du compte, on a obtenu une glyquée de 7% contre 7,9%. Après ça, UQPDS 34, Oli, tu vas nous en reparler rapido, mais c'est l'étude où dans le groupe intensif, en fait, on a utilisé de la metformine, puis là, il pouvait avoir d'autres affaires, mais au final, 7,4% contre 8%, une diminution de la mortalité toute cause de 7 décès par 1000 patients année, une diminution des infarctus du myocarde de 6 par 1000 patients année. Fait que oui, des résultats qui étaient statistiquement significatifs, puis comme tu vas nous le dire, ben c'est de là que ça vient. Finalement, l'idée que la metformine, ça a des bienfaits puis que ça fonctionne, mais encore une fois, des chiffres qui ne sont pas non plus hallucinants, mais on pourrait y revenir. Puis plus récemment, là, même si ça reste vieux, les études ACCORD, ADVANCE, VADT, des études de 2008-2009, des grosses études. Avec l'étude ACCORD, c'est la fameuse étude où on a voulu, chez un peu plus de 10 000 patients diabétiques, atteindre une hémoglobine glyquée en bas de 6% dans le groupe intensif. On ne s'est pas rendu parce qu'on se rappelle que ce qui est arrivé dans ACCORD, c'est la seule étude de l'histoire de ces études-là où on s'est rendu en fait avec une hémoglobine glycée en bas de 6,5%. On s'est rendu à 6,4 au bout de 3 ans et demi. Puis là, ben, ce qui est arrivé, c'est que l'étude a été cessée prématurément parce qu'on s'est rendu compte que les gens mouraient plus avec une augmentation de la mortalité de toute cause d'à peu près 1%. Fait qu'on dirait que cette phrase-là, il faut tout le temps que je la répète quand même. Fait que la seule étude dans l'histoire où on s'est rendu en fait avec une glyquée en bas de 6,5%, c'est l'étude ACCORD. Puis elle a été cessée prématurément parce qu'on s'est rendu compte que les gens mouraient plus.
Donc, la seule étude où on amène nos patients en bas du fameux seuil de diabète, le seuil contemporain, ces patients-là, dans cette étude-là, ils meurent plus.
Exact. Dans le même genre, ADVANCE, plus de 11 000 diabétiques qu'on a suivis pendant 5 ans, qu'on a amenés dans le groupe intensif à 6,5, dans le groupe contrôle à 7,3 %. Pas de différence sur la mortalité, les infarctus, les AVC. Une diminution de 1 % des néphropathies. Je parle pas ici d'insuffisance rénale terminale là, ou d'affaires de même, là, de néphropathie. Je comprends que c'est pas une bonne nouvelle, là, mais c'est une issue peu clinique. Puis au prix de plus d'hypoglycémie, puis même plus d'hospitalisation. Fait encore là, peu impressionnant certainement. Puis finalement, VADT, une étude d'un peu moins de 2 000 diabétiques qu'on a suivie pendant un petit peu plus de 5 ans, qu'on a amené dans le groupe intensif à 6,9 % contre 8,4 % dans le groupe standard. On dirait que celle-là, c'est un peu ma préférée. Bien, je trouve que elle devrait si bien fonctionner, tu sais. C'est comme exactement nos écarts de cible un peu dont on discute typiquement, là. Fait que, je répète, à la fin de l'étude, 6,9 % dans le groupe intensif, 8,4 % dans le groupe contrôle. Puis au final, qu'est-ce que ça a donné? Pas de différence sur la mortalité, les infarctus, les AVC, l'insuffisance cardiaque, une diminution de 5 % de l'albuminurie. On est encore à un seuil le plus moins clinique d'issue rénale, puis une augmentation des hypoglycémies sévères avec un NNH à 17, là, une hypoglycémie sévère. Puis là, ben évidemment, ce que les gens vont critiquer typiquement quand on parle de ces études-là, c'est que c'est des vieilles études. Et donc, les traitements utilisés sont des vieux traitements. On utilisait beaucoup de, ben oui, metformine, mais beaucoup de sulfonylurée, beaucoup d'insuline. On peut se rappeler aussi, c'était une époque où on avait des TZD puis des affaires de même. Puis ils vont dire, ben c'est normal qu'il y ait donc eu des problèmes parce qu'on n'utilisait pas des bons médicaments. Puis vous savez quoi? Ben oui, en effet. Ce que ça nous montre, encore une fois, c'est que d'utiliser un marqueur intermédiaire, c'est-à-dire dans ce cas-ci l'hémoglobine glyquée, comme cible de traitement unique pour supposer que ça va donc diriger le devenir d'un patient, ben c'est probablement pas une très bonne idée. Comme on en a jasé déjà dans plein d'autres domaines où on utilise des marqueurs intermédiaires pour juger de l'efficacité de nos affaires. Puis oui, effectivement, ben on devrait probablement plus essayer de regarder les études qui ont démontré des bienfaits cliniques en utilisant telle ou telle thérapie. Faites juste vous rappeler pour ceux qui étaient là à la fin des années 2000, justement les TZD, la rosiglitazone qui a finalement été retirée du marché parce que même si elle diminuait le sucre, ben à un moment donné, on s'est rendu compte qu'elle était probablement néfaste, notamment au niveau cardiaque. Fait que les marqueurs intermédiaires, des fois on n'a pas mieux, des fois on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, mais ici ça donne qu'on a de plus en plus mieux, ce qu'on va jaser dans les prochaines minutes, puis l'hémoglobine liquide devrait devenir probablement seulement un morceau du casse-tête, mais il y en a plein d'autres qui ont au moins autant de mérite. Sinon, avant de parler de traitement, juste un petit mot, parce que l'autre affaire qu'on me dit souvent aussi, c'est oui, OK, fine, il n'y a pas eu de diminution des infarctus puis de la mortalité, mais on le dit dans Diabète Canada, hein, la cible intensive en bas de 6,5 %, c'est pour les complications microvasculaires. Parce que oui, dans Advance, on se rappelle, il y a eu une diminution des néphropathies. Dans VADT, il y a eu une diminution de l'albuminurie. Puis dans les vieilles études UKIP-DS, il y a eu la fameuse diminution des événements liés au diabète. Mais dans les faits, là, tout ça a été méta-analysé depuis longtemps, là, toutes ces grosses études-là. Puis ce que ça montre, oui, avec les groupes intensifs, en se rappelant que dans les groupes intensifs, là, la majorité sont restés autour de 7 % là, et non à 6,5 ou en bas. Là, on a eu une diminution des issues rénales. Là, évidemment, chaque étude a ses propres critères, là, fait qu'on a mis ça un peu tout ensemble. Mais au bout de plusieurs années, on parle d'une diminution absolue de 0,4 % dans les groupes intensifs. Quand on regarde les problèmes rétiniens, on n'a pas réussi à démontrer de différence statistiquement significative, puis on aurait une diminution absolue de 0,2 % sur plusieurs années. Puis quand on regarde les neuropathies, on n'a pas non plus réussi d'aucune façon à montrer une différence des traitements intensifs. L'intervalle de confiance sur le résultat là, va de 0,87 à 1,09. On est pas mal en plein milieu de l'effet nul. Fait que malheureusement, dans ces études-là, même pour les complications microvasculaires, les groupes intensifs n'ont pas sauvé grand-chose là.
Ben pour prendre la statistique, mettons, qui est la seule statistique qui est statistiquement significative là, sur les issues rénales, là, ça donne un NNT de 250 sur des suivis qui varient entre 4 et 10 ans.
En plein ça. Ça m'aide pas beaucoup.
Ben, c'est ça.
Fait que, mais encore une fois, on va le voir, puis vous le savez, là, si vous avez suivi un peu l'actualité diabétique dans les 10 dernières années, on a maintenant des traitements qui, bien au-delà de ces cibles-là, puis des hémoglobines liquées, ont démontré des bénéfices, évidemment, notamment au niveau rénal, là, on le sait, là, nos GLP-1, nos GLT-2, on va y revenir, mais fait que, ça fait juste nous rappeler, à nouveau, que de tout miser sur un contrôle de sucre, des valeurs de laboratoire de glucose, c'est probablement pas une très bonne idée. Fait qu'est-ce qu'on peut offrir à nos patients au-delà du monitoring de leurs valeurs de glycémie pour changer leur devenir clinique?
On commence avec la metformine, hein, qui reste encore notre première ligne de traitement pour la très, 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 très grande majorité des patients. Puis je pense que c'est important de rappeler brièvement, là, Nico, tu en as déjà un peu parlé, là, de l'étude UKIP-DS 34. C'est une étude de 1998 qui porte notamment sur la metformine. Dans cette étude-là, on a remarqué avec la metformine une diminution de la mortalité de l'ordre de 40 % relatif, ce qui donne un NNT de 14 sur 10 ans, par contre, donc un suivi assez long, puis une diminution des événements cardiovasculaires de 40 % relatif pour un NNT de 16 sur 10 ans. Donc.
Fait que ça fonctionne, la metformine, jusqu'à preuve du contraire, pour diminuer les complications macro, même la mortalité. Mais c'est quand même fascinant comment C'est une étude, puis le groupe Metformine en question, là, parce que ça, il y avait d'autres affaires, là, mais c'était comme 700 quelques participants.
Ouais.
C'est pas mal ça, là, la science qu'on a, c'est la Metformine, mais ça reste positif, là.
Tout à fait. Puis, tu sais, l'autre argument en faveur de l'utilisation de la metformine comme première ligne de traitement, c'est que toutes nos études de médicaments plus modernes, puis on va y revenir, là, notamment les GLP-1, les inhibiteurs du SGLT2, incluaient aussi la prise de metformine, là. Donc, ces nouvelles thérapies-là, dans les études cliniques, s'ajoutent généralement à la metformine, qui reste le gold standard, l'étalon doré un peu de notre première thérapie en diabète.
Absolument.
Sinon, si on y va un petit peu en rafale, tu sais, la metformine, c'est quand même un médicament bien toléré, là, à part certains effets secondaires GI qu'on peut mitiger en titrant, disons, adéquatement et lentement pour certains patients. C'est un médicament qui n'a pas de gain pondéral, qui cause très peu d'hypoglycémie, qui est couvert AMQ, qui coûte vraiment pas cher. Donc, quand même beaucoup d'éléments en faveur de l'utilisation de la metformine.
Quand on dit que ça coûte pas cher, là, c'est comme quelques sous par jour, là, moins de 5 sous par jour.
Exact.
C'est dans l'abordable.
Très abordable. Donc, une fois qu'on débute la metformine, c'est pas assez. Généralement, avec la RAMQ, on est bien souvent obligé d'aller vers une sulfonylurée, à moins que notre patient ou notre patiente présente certaines conditions, certaines comorbidités qui pourraient faire en sorte que d'autres molécules plus intéressantes soient couvertes, là. On va y revenir, mais souvent, notre deuxième ligne pour un paquet de patients, c'est l'utilisation des sulfonylurées. J'ai pas de grande nouveauté avec les sulfos. Je pense que c'est des médicaments que les cliniciens connaissent quand même assez bien, mais je pense que c'est important de rappeler que ces molécules-là n'ont pas démontré de bénéfices cardiovasculaires. Puis non seulement ça, il y a même des études qui pointent vers une augmentation des événements cardiovasculaires avec certaines sulfonylurées. C'est des médicaments qui comportent aussi un risque d'hypoglycémie qui est pas négligeable, qui peuvent mener à des gains de poids. Le seul avantage des sulfonylurées comparativement à d'autres molécules dont on va parler bientôt, c'est que ça coûte quand même pas si cher. C'est des médicaments qui sont couverts RAMQ aussi.
Fait que tu sais, ici, là, je pense que ça vaut la peine quand même de prendre une petite seconde, puis on va y revenir à la fin, je présume, là. Fait que tu sais, ton patient diabétique, la metformine, probablement une très bonne idée, chez à peu près tout le monde, j'imagine. Les sulfonylurées, jusqu'à preuve du contraire, ça ne diminue d'aucune façon les complications du diabète. Puis même, là, on pourra remettre la bonne vieille référence de 1971 du JAMA, là, cette étude où on a démontré que le tolbutamide, en comparaison à un placebo, diminuait, oui, le sucre, mais augmentait la mortalité cardiovasculaire. C'est quand même une mauvaise nouvelle. Je pense qu'il faut quand même, avant de donner une sulfonylurée à une personne, oui, malheureusement, il y a certains critères administratifs qui nous limitent, mais il faut se poser la question, c'est quoi notre objectif de traitement là, chez cette personne-là? Parce que si cette personne-là est asymptomatique, si cette personne-là a des valeurs de glycémie raisonnable, puis on reviendra peut-être tantôt sur qu'est-ce que veut dire raisonnable, ben, je suis pas sûr qu'on l'aide en y ajoutant une sulfonylurée. Jusqu'à preuve du contraire, en fait, on la met à risque de certaines complications, de certains effets indésirables. On rajoute une médication, puis une dépense, même si elle est peu élevée.
Oui. Mettons que votre patient avec une hémoglobine glyquée à 7,2, si vous le partez une sulfonylurée juste parce que vous êtes en haut de 7 de glyquée, c'est peut-être pas la meilleure des idées.
Clairement. Peut-être parce que c'est pas une sulfonylurée, là, il y a le répaglinide qui existe toujours. Médicament qu'on utilise peu quand même, mais historiquement, c'est un médicament qui avait comme créneau, bon, c'est un médicament qui agit rapidement et pas longtemps pour un médicament oral, puis qui était donc souvent utilisé pour essayer de cibler certains moments de la journée ou pour aider les gens à gérer une journée quand ils ont un horaire de repas très irrégulier ou des affaires de même. On n'a pas plus là, de science qui démontre que ça change le risque de complications, puis ça vient aussi avec ses désavantages, des fins désirables, puis tout ça. Fait qu'encore une fois, je pense que c'est une molécule, avant de la considérer, de s'assurer de se poser la question, OK, mais c'est quoi que j'espère aller chercher chez mon patient avec ça? Fait que là, on serait rendu aux médicaments un petit peu plus contemporains, Oli?
Les inhibiteurs du DPP-4, donc les fameux gliptines, sitagliptine, saxagliptine, linagliptine, et il y a l'autre que j'oublie toujours.
Allô?
Allô.
Allô, Glyptine.
Merci Isa, merci Isa.
J'ai le tableau devant les yeux. C'est pas parce que je le prescris souvent.
Donc, les DPP-4, c'est quand même des médicaments, il faut le rappeler, qui n'ont pas de bénéfices cliniques démontrés dans les études randomisées contrôlées, au-delà de baisser le taux de sucre. C'est des médicaments qui coûtent quand même cher. Là, on va revenir bientôt sur le prix, la couverture dans un moment. Donc, sur cette base-là, quand même une place plus limitée dans leur utilisation. Par contre, c'est... On va se dire qu'il y a des médicaments qui sont très bien tolérés, qui comportent très peu de risques d'hypoglycémie, qui n'ont pas de gain de poids. Donc, sur la base, la tolérance quand même des médicaments qui se démarquent positivement.
Ben, comme on dit souvent, en fait, c'est des médicaments qui font pas grand-chose, là.
Ouais,
Fait que,
de positif et de négatif.
point, pas grand-chose, point.
Ouais.
C'est souvent comme ça, hein. Il y a une tendance, on en a déjà parlé, mais les médicaments qui ont vraiment trop peu d'effets indésirables, c'est probablement des médicaments souvent qui font trop peu d'effets, point.
C'est tes médicaments préférés, Nico.
Oui, absolument. Puis, tu sais, ça vaut quand même la peine de peut-être le rappeler rapido, là. C'est fou, là, parce que, mettons, on parlait de metformine, on parlait de sulfonylurée, c'est souvent des vieilles études avec, bon, des limites, pis ci, pis ça. Les DPP-4, c'est pas des vieux médicaments, quand même. Donc, on a des très, très, très grosses études. Puis, on a même ces fameuses études de non-infériorité contre placebo, là. Puis, on dirait que cette phrase-là, à chaque fois que je la dis, elle me donne un peu le tournis, là.
Ça fait tellement pas de
Je veux
sens.
dire... Puis, c'est suite là, justement au problème des TZD. La FDA a exigé que les nouveaux médicaments antidiabétiques soient démontrés sécuritaires et donc ont demandé à ce qu'on les compare à des placebos et qu'on nous démontre qu'ils ne causent pas plus de problèmes qu'un placebo. Puis, quand on réussit, on est satisfait. Fait que des études, on en a avec chacun des inhibiteurs de DPP-4, des études de plusieurs milliers de patients avec des suivis assez longs, puis tout ça. Puis à chaque fois, ça nous montre la même affaire, ça fait rien. Ça fait rien sur rien. Puis ça, c'est apparemment un argument qui devrait nous convaincre de donc les utiliser. Je sais pas.
Tu sais, c'est des médicaments qui vont coûter entre 80 sous et 2,30 $ environ le comprimé. Fait que, tu sais, par rapport, tantôt, on parlait de metformine à 2 à 4 sous, là, puis on n'a pas mentionné, mais pour les sulfonylurées, on parle en bas de 10 sous. C'est quand même un gros saut, là, dans le budget.
Clairement.
Et toutes ces molécules sont aussi disponibles en association avec la metformine.
Un petit mot sur les combinaisons dont tu parles. T'sais, on a des combinaisons aussi avec d'autres produits, avec les inhibiteurs à GLT-2 puis tout ça. Puis, en tout cas, moi, j'en vois pas une tonne d'ordonnances de combinaisons. Puis à l'inverse, je vois une tonne de patients qui prennent ces différents médicaments-là séparés. Il y a quand même de la littérature qui montre que l'observance médicamenteuse est meilleure quand on diminue le nombre de comprimés. Puis, je vous dirais par expérience, là, c'est pas de la science que je vous dis là pantoute, je sais pas vous autres votre expérience, mais quand je le propose aux patients, généralement, ils sont intéressés. Ça te fait pas dépenser une scène de plus, là. Puis même, en plus, quand tu inclus les honoraires, puis les ci, puis les ça, tu sauves probablement un petit peu d'argent. Donc, peut-être un petit rappel sur la disponibilité d'un paquet de combinaisons en diabète qui peuvent être, je pense, intéressantes pour certains patients.
Tout à fait. Ben, peut-être pas avec les inhibiteurs de PP4, mais.
Ça, on reviendra. OK. Y a-t-il d'autres choses qu'on voulait rajouter, Oli, sur les inhibiteurs de la DPP-4?
Deux petits éléments à retenir, là. Le premier point, c'est qu'on ne combine pas les inhibiteurs du DPP4 avec les analogues du GLP1. Il n'y a pas de bénéfice à faire ça, autant sur le plan des issues cliniques que sur la glyquée. C'est deux classes qui ont un mécanisme un peu semblable. Donc, juste retenir, on combine pas ces deux classes de médicaments-là. Et l'autre petit point, là, sans rentrer dans le détail de chacun des inhibiteurs du DPP-4, je pense que c'est important de rappeler que la saxagliptine est à éviter en insuffisance cardiaque. Là, ça augmente le risque d'hospitalisation pour insuffisance cardiaque dans une étude quand même qui avait une bonne durée de suivi puis pas mal de patients, là, donc
Ouais.
à éviter.
C'est ça, bon, c'est pour sortir des autres études de DPP-4. Fait que là, il reste encore un certain flou, je pense, sur ce lien de cause à effet-là, mais en même temps, pourquoi est-ce casser le bicycle, là?
Par prudence, vous avez d'autres molécules. Donc, si vous avez un patient avec insuffisance cardiaque, la saxagliptine, ça vaut le coup de, ben, d'explorer d'autres classes de médicaments. Mais si vous avez vraiment besoin d'un DPP-4, ben, d'en prescrire un autre que la saxagliptine.
Ben oui. Excellent. Ensuite de ça, ben, ils sont arrivés les inhibiteurs du SGLT2.
Les grands sauveurs, les grands héros.
Ben, en tout cas, des débuts de quelque chose qui ont commencé, moi, à démontrer mieux que je ne suis pas moins bon qu'un placebo. C'est quand même une bonne nouvelle. Fait que, bon, on a un paquet d'études randomisées contrôlées sur ces différentes molécules-là. On en a parlé de plusieurs au fil des années. Je vais pas refaire un tour en détail de ça. Au final, ben, clairement, les inhibiteurs SGLT2 ont démontré dans plusieurs de ces études-là des diminutions de problèmes cliniques, donc des événements cardiovasculaires, dans certains cas, même de la mortalité de toute cause, des bénéfices clairs sur l'insuffisance cardiaque, des bénéfices clairs au niveau rénal. Fait que, bref. Au-delà du sucre, ça change le devenir des patients. Puis je pense que c'est là, évidemment, qu'on devrait mettre notre effort et notre énergie. Petit bémol quand même, on en a déjà parlé. Il y a quelque chose de... Je ne sais pas si le bon mot, c'est préoccupant, mais quand on regarde la majorité des études d'inhibiteurs SGLT2, on voit vraiment une tendance à une perte de diminution des complications quand on se penche sur les populations en prévention primaire. Alors que quand on regarde les populations en prévention secondaire, donc les gens avec des antécédents cardiovasculaires, là, les bénéfices sont généralement beaucoup plus évidents. Puis ça semble pas juste être le classique, là, où, ben, tu sais, les études en prévention primaire, les gens ont eu moins de complications, puis c'est donc plus difficile de démontrer une différence statistiquement significative. Vraiment, même quand on regarde les chiffres absolus, on voit pas beaucoup de différence souvent dans les populations en prévention primaire. Fait que peut-être juste, on reviendra aussi à la fin dans le wrap-up, mais le risque de complications des patients devrait faire partie certainement de notre réflexion, puis ça devrait toujours être le cas, peu importe la pathologie à laquelle on fait référence. On en a parlé déjà en dyslipidémie, en hypertension, en ostéoporose, en n'importe quoi là, où on essaie de prévenir des complications, on devrait évaluer le risque de complications, mais c'est ça, c'est moins clair à quel point en prévention primaire, bref, chez des gens typiquement qui ont moins de risques de complications, ces médicaments-là ont des bénéfices cliniques significatifs. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec la science qu'on a. Ça reste quand même déjà beaucoup, beaucoup mieux que les autres affaires qu'on a dit
Très clairement.
avant, là. Des petits enjeux au quotidien qu'on vit avec les inhibiteurs SGLT2, bon, c'est des médicaments qui viennent avec un risque d'effet indésirable, hein, parce que oui, souvent, les médicaments qui font quelque chose viennent aussi avec un risque d'effet indésirable. On peut penser, bon, en termes de trucs communs, les infections génitales. Probablement plus les infections génitales que les infections urinaires, en passant, là, dépendamment. Il y a tellement d'études sur ces produits-là que les données sont plutôt hétérogènes, se promènent un peu, mais on s'en met vraiment plus dans des problèmes de nature génitale que de nature urinaire. Les chiffres, c'est difficile à estimer, c'est très variable, encore une fois, mais on est probablement sur des NNH qui varient de 10 à 50, là, sur de 1 à quelques années. Donc,
Quand même à prendre en considération.
je veux dire, puis on le voit là en pratique, certainement. C'est quelque chose qui arrive. Les acétocétoses euglycémiques, hein, il y a des alertes maintenant là-dessus. Effectivement, dans les grosses études, ça s'est avéré. Il y a un risque augmenté, un risque qui peut être doublé ou même un peu plus dans certaines études. Mais quand on regarde les chiffres absolus, soyons clairs, on parle quand même de NNH qui sont souvent à plusieurs centaines, presque 1 000 sur un an à peu près. Mais quand on met ça en perspective avec les bénéfices qu'on espère aller chercher au niveau cardiovasculaire, rénal et autres, ben, je suis pas sûr que c'est un game changer. Là où vraiment il y a un enjeu supplémentaire, c'est pour les patients qui ont des antécédents ou qui ont des expériences d'acidocétose. Ben là, oui, leur balance à eux est probablement différente. Il y a eu un avertissement sur le risque de fracture. Il y en a eu un aussi sur le risque d'amputation. C'est des choses qui sont sorties dans. Tu sais, on a tellement eu d'études, fait que, mettons, les amputations, ben, c'est une étude. C'est l'étude CANVAS, là, qui avait étudié la canagliflozine à l'époque, où oui, on avait une augmentation statistiquement significative des amputations, mais on parlait quand même d'une augmentation absolue de 0,3% par année. Puis on parlait majoritairement d'amputation d'orteils. Je le dis tout le temps, là, je les aime, mes orteils, là, puis j'aimerais ça, là, les garder toute la gang. Mais mettons, si tu as le choix entre faire un AVC ou un infarctus, si tu perds un orteil, en tout cas, il y a une balance un peu plus compliquée ici. Puis ces risques-là n'ont pas été observés dans les autres études avec les autres inhibiteurs SGLT2 du même genre. Fait que, tu sais, c'est-tu le hasard? Y a-tu vraiment quelque chose de particulier avec cette médication-là? On ne sait pas trop, puis évidemment, dans les études, ben, on a des populations, hein, comme toujours, relativement propres, je dirais. Donc, on n'a souvent pas les patients qui ont les plus hauts risques d'avoir, par exemple, des amputations, puis ce genre d'affaires-là. Mais bref, on commence à avoir du recul. On a un paquet de données qui se sont ajoutées depuis l'étude CANVAS. Ça semble pas être quelque chose qui s'est généralisé puis sur lequel on devrait apporter plus d'attention, je pense. Il y a eu tout l'enjeu rénal aussi, là. Fait que, je sais pas si vous vous souvenez, initialement, avec les inhibiteurs GLT2, on recommandait de façon. Les phrases varient, là, selon la molécule, la monographie, mais un monitoring rénal régulier. Tranquillement, on s'est rendu compte au fur et à mesure que les études sortaient, notamment des études chez des patients avec des problèmes rénaux, que typiquement, ce qu'on s'attend à voir probablement quand on commence un inhibiteur GLT2, c'est oui, une augmentation initiale de la créatinine. Mais après ça, quand on regarde dans le temps un peu plus, de façon un peu plus prolongée, là, tout ça stabilise. Puis au final, bien, on voit même un bienfait, typiquement. Fait que, il n'y a pas de recommandation parfaitement claire puis parfaitement justifiée, je dirais, par rapport à l'idée de faire un monitoring rénal très serré suite à l'initiation d'un inhibiteur SGLT2. Après ça, ben, je pense qu'on peut utiliser notre jugement, utiliser la prudence dans le doute. Fait que, tu sais, les patients avec plein de facteurs de risque de faire une insuffisance rénale aiguë, des patients âgés qui ont déjà des médicaments qui jouent de ce côté-là, puis ci, puis ça. À un moment donné, je ne suis pas sûr qu'on peut être contre, mais évidemment, il faut mettre ça en balance avec la pertinence des soins, puis essayer de ne pas faire des analyses de laboratoire pour rien non plus, là. Fait que je ne suis pas capable clairement de vous faire une recommandation unique et claire par rapport à ça.
Si on parle de prix et de couverture, on a trois molécules dans cette catégorie, la canagliflozine, la dapagliflozine et l'empagliflozine, qui coûtent environ 2,50 $ grosso modo du comprimé, mais la dapagliflozine est disponible en générique, donc le prix est quand même pas mal plus bas pour cette molécule-là si on va avec le générique.
La dapagliflozine, on est rendu, en passant, moins dispendieux que les inhibiteurs de la DPP-4.
Quand
Ça, c'est
même, hein?
fascinant. Fascinant. Fait que, tu sais, rendu là, je pense que pour la majorité des patients, entre les deux, le choix devrait être plutôt simple.
Ces trois molécules-là sont aussi disponibles en combinaison avec la metformine, avec des codes. Donc, grosso modo, là, c'est encore quand, comme pour la DAPA, c'est quand la sulfonylurée est contre-indiquée et qu'on a déjà la dose optimale stable de metformine depuis un mois, un peu comme tantôt avec les combinaisons avec les inhibiteurs de PPP4.
Encore une fois, les combinaisons, je pense qu'il ne faut pas oublier, qui peuvent simplifier là, le fardeau médicamenteux de nos patients sans augmenter les dépenses.
Voilà.
On serait rendu au GLP-1.
Oui. Donc, si on y va rondement pour les bénéfices cliniques, là, on en a déjà parlé dans plein d'autres épisodes. Mais si on fait un petit résumé, comme tu l'as fait, Nico, pour les SGLT2, là, on a quand même plusieurs études randomisées contrôlées qui ont démontré, dans certains cas, une diminution de la mortalité avec les GLP-1, de l'ordre d'une réduction relative d'environ 10 %. On a vu dans un paquet d'études une diminution des événements cardiovasculaires qui tourne généralement autour de 10 à 15 %. Des chiffres qui ressemblent en fait pas mal aux inhibiteurs du SGLT2. Ces bénéfices-là ont surtout été démontrés aussi dans des études de prévention secondaire de façon plus marquée. Je pense que c'est important de retenir que les analogues du GLP-1 ont aussi des bénéfices rénaux. Je pense qu'en pratique, on l'oublie parfois, là. Dès qu'on pense bénéfices rénaux, on pense beaucoup aux inhibiteurs du SGLT2, puis clairement, les bénéfices rénaux avec les SGLT2 sont plus importants que ce qu'on voit dans les études de GLP-1, quoiqu'on n'a pas comparé les deux directement dans des études de bonne qualité, mais on peut retenir quand même que une diminution des événements rénaux avec l'utilisation des analogues du GLP-1.
Oui, puis on peut se rappeler l'étude FLOW, là, dont on a parlé l'année dernière, là, qui est sortie en 2024, qui portait
Exact.
spécifiquement là-dessus, puis qui a quand même démontré des bénéfices très, très, très intéressants cliniquement au niveau rénal, là.
Clairement, clairement. Donc, à ne pas oublier pour nos patients avec une néphropathie diabétique. Là où il y a une bonne différence avec les SGLT2, c'est que les GLP-1 n'ont pas de bénéfice en insuffisance cardiaque. Donc, ça,
Ben,
c'est.
je suis pas sûr qu'on peut dire. Pas de
Ouais.
bénéfice, là. Ils ont quand même réussi à se trouver des niches, là. Il y a l'étude avec le tirzépatide, là, notamment, un peu plus tôt, quoi, cette année ou l'année passée, je sais pas, le temps passe vite, là. On a réussi à démontrer une diminution de certaines issues, mais bon, disons que on est clairement pas au même endroit, là.
Ouais, c'était pas sur des issues cliniques aussi importantes, mettons que les hospitalisations pour insuffisance cardiaque de mémoire, c'était plus des issues de
Il y avait beaucoup d'ajustements de
qualité de vie.
furosémide en
C'est
externe
ça.
là, dans ça,
C'est ça.
mais quand même, je pense qu'il faut être transparent. Là, il y a probablement, en tout cas, il y a un potentiel de bénéfice chez certains patients dans certains types d'insuffisance cardiaque sur certaines issues, mais on ne semble pas être au même endroit que les inhibiteurs SGLT2.
Exact. Sinon, au-delà des bénéfices cardio-rénaux, je pense que tout le monde le sait, là, mais les GLP-1 font perdre du poids. Hein? Je
Ben
pense que ça
voyons donc.
vient ici.
Si quelqu'un était dans une grotte, là, puis il n'en a pas entendu parler depuis les dernières années.
Ouais, donc c'est un avantage qui est quand même souvent recherché par nos patients. Donc juste un petit rappel, puis on l'a déjà dit aussi, en diabète, la perte de poids semble un petit peu moins importante là, que dans une population non diabétique. Par exemple, le sémaglutide en diabète, on est autour de 7 à 10 % de perte de poids moyenne versus dans des populations non diabétiques, plus autour de 15 %. Donc ça, c'était pour le volet un petit peu plus bénéfices cliniques. On voulait revenir aussi sur certains enjeux, certaines controverses avec les GLP-1 qu'on a peut-être moins abordé au fil du temps avec le pharmacope. Donc, le premier point, c'est une question qu'on reçoit quand même de temps en temps au GMF. Là, je rappellerai que la monographie des différents GLP-1 nous rappelle que ces médicaments-là sont contre-indiqués chez les patients avec des antécédents personnels ou familiaux de carcinome médullaire de la thyroïde et chez les patients atteints d'une néoplasie endocrinienne multiple de type 2. Donc, à la base, c'est une recommandation qui se fonde surtout sur des données animales en termes d'études chez les humains. Par contre, on a une revue systématique de 64 études randomisées contrôlées d'une durée d'au moins un an pour un total de autour de 85 000 participants qui est venue documenter le risque de cancer de la thyroïde. Je vous rappellerai ici que les études randomisées en question excluaient généralement les patients avec des antécédents ou avec des risques élevés de cancer médullaire de la thyroïde en raison de la recommandation des différentes monographies. Puis ce qu'on remarque dans une population qui n'est pas à haut risque de cancer, c'est un total de 86 cas de cancer de la thyroïde, 60 sous GLP-1, 26 sous placebo. Ça nous donne un rapport de cas de 1,52 qui est à peine statistiquement significatif, mais qui l'est. Puis ce qui nous donne un NNH d'un peu plus que 1 300 sur une durée moyenne de 5 ans.
Clairement, ici, des données qui sont rassurantes, mais c'est ça, c'est toujours un bémol qu'on retrouve dans les études randomisées contrôlées, puis on le comprend aussi, c'est que souvent, ben, encore une fois, on prend une population qui est propre, dans ce cas-ci, une population qui a pas eu, puis qui a pas de risque élevé de cancer médullaire, mais médullaire, hein, fait que pour la partie papillaire, ça semble pas être un enjeu, je suis capable du contraire, là.
Exact. On peut quand même retenir que si on a des patients inquiets parce qu'ils ont lu ça sur Internet, chez des patients qui ne sont pas à risque, qui ne présentent pas des antécédents de ce type de cancer-là ou des antécédents familiaux, on peut être très rassurant pour ces autres patients-là.
Certainement.
On voulait discuter sinon brièvement du risque de rhétitopathie associée aux analogues du GLP-1. Puis ce risque-là, surtout, était vu de façon plus importante dans l'étude SUSTAIN-6, qui incluait 3 000 patients diabétiques. Quand on regardait les complications associées à la rhétinopathie diabétique dans cette étude-là, c'était documenté chez 3 % des patients sous sémaglutide contre 1,8 % des patients sous placebo. C'était une différence qui était statistiquement significative, qui nous donnait un NNH de 84. Donc, j'ai envie de dire, pas super inquiétant à la base, mais quand on regarde les résultats, c'est encore un petit peu plus rassurant, là. Ce risque-là était surtout tiré par l'utilisation, ben, par la survenue de photocoagulation rétinienne, là, ce qui est quand même moins important que, mettons, des cas de cécité ou des cas d'hémorragie vitréenne, là, on s'entend. Donc, c'était tiré quand même par, c'est une issue composite, puis c'était tiré par l'élément, disons, cliniquement moins inquiétant
Dramatique. Ouais.
de l'issue composite.
Puis tu sais, c'est de remettre ça aussi en perspective avec les bienfaits qu'on peut espérer là, selon le patient qu'on a devant nous. Fait que peut-être quelque chose ici, mais à quel point ça ch devrait changer une décision?
Ouais. Surtout quand on rajoute un petit niveau de complexité de plus. Il y a une revue systématique récente de 13 études randomisées contrôlées, environ 30 000 participants qui démontraient pas une augmentation du risque de complications liées à la rétinopathie. Donc, quand on regardait plusieurs études ensemble, ça semblait plutôt rassurant. Troisième petit truc qu'on voulait jaser brièvement, on entend souvent que les analogues du GLP-1 peuvent avoir des complications gastro-intestinales rares. On pense notamment au risque de pancréatite. J'ai trouvé une revue systématique de 55 études randomisées contrôlées qui regardaient spécifiquement un paquet de risques gastro-intestinaux liés aux analogues du GLP-1, tout ça pour un total d'environ 100 000 participants, rien de moins. Donc, quand même pas mal de monde. Puis, la conclusion de cette revue systématique, c'est qu'il n'y a pas de risque augmenté de pancréatite, de cholécystite, de cholangite, de cholestase avec les analogues du GLP-1. Tout ce qu'on a trouvé de statistiquement significatif, c'est un risque de cholélithiase, donc pour un NH de 1000, puis de RGO pour un NH de 50.
Un NH à 1000, ça me paraît un peu dramatique, clairement.
C'est ça.
Puis bon, le reflux, ben oui, je pense que c'est quelque chose auquel on s'attend, qu'on voit en pratique, puis là, ben, on s'ajuste avec nos patients. Là.
Exact. Donc, des données rassurantes sur le plan GI.
Mais encore une fois, faut le dire, pour les pancréatites, évidemment, dans ces études-là, souvent, ben, on a des populations propres, on excluait les patients avec des antécédents de pancréatite, puis fait que. Il reste des bémols, là, certainement, dans cette science-là, mais il faut quand même le dire, là, je veux dire, avec 100 000 participants d'études randomisées contrôlées, si tu n'as pas réussi à démontrer une augmentation du risque, bien, s'il en existe une, elle est probablement pas très grande.
Exact. Sinon, Isa, voulais-tu nous parler un petit peu de prix, de couverture avec les GLP-1?
Oui, il y a cinq molécules différentes, mais il y en a qu'on n'utilise pas beaucoup au Québec ou qui n'ont pas vraiment levé, là. Il y a la dulaglutide, l'exénatide, l'liraglutide, l'ixizénatide et semaglutide que celle-là, tout le monde connaît. À la RAMQ, il y en a trois qui sont des médicaments d'exception. Donc, dulaglutide, liraglutide et sémaglutide, ce ne sont pas des médicaments d'exception codifiés. Donc, il faut faire des demandes de médicaments d'exception. Donc, dulaglutide et liraglutide peuvent être discutés ensemble parce que c'est des médicaments qui se ressemblent quand même. Il y en a un qui est pris une fois par semaine, qui coûte environ 42 $ par semaine, et l'autre est pris à tous les jours et coûte 6-7 $ par jour. Donc, ça revient pas mal à la même chose dans les prix. C'est deux médicaments qui peuvent être couverts en association avec la metformine. Dans le cas où les patients ont un IMC supérieur à 30 et, particularité, il faut qu'un inhibiteur de la DPP-4 soit contre-indiqué, non toléré ou inefficace. Ensuite, on a ben, sémaglutide là, qui a fait beaucoup jaser dans les dernières années, qui est disponible sous-cutané ou péros. Et les deux sont en médicaments d'exception, par contre, pas de code, comme on disait tantôt, il faut faire la demande. Et le critère pour le remboursement dans les deux cas, c'est en association avec la metformine lorsque la sulfonylurée est contre-indiquée, non tolérée ou inefficace. Donc, quand même, ça vient assez rapidement dans notre arsenal thérapeutique.
Ouais, une partie difficile, c'est pour les patients qui ne tolèrent pas ou qui ne peuvent pas prendre de metformine. Là, on tombe donc en patient d'exception avec bon, les obstacles que ça implique.
Ouais, bon point. Peut-être un petit point sur le fait que la dose max de sémaglutide sous-cutané, c'est 1 mg Q-semaine.
Oui, ne pas oublier, en effet.
Ouais.
Parce qu'il faut savoir que la RAMQ, la façon dont elle fonctionne, elle ne va pas barrer l'ordonnance, la refuser. Elle va rembourser jusqu'à temps qu'elle ait couvert l'équivalent d'un milligramme par semaine sur un an. Ce que ça veut dire, c'est que le patient qu'on augmente malencontreusement à 1,5 ou à 2 milligrammes, ben, il va se faire rembourser son médicament. Puis là, ben, à un moment donné, au courant de l'année, la RAMQ va dire « Oh, c'est terminé maintenant ». Puis là, ça fait des factures plutôt salées, là.
Mais justement, parlant de facture, là, le prix coûtant pour 1 mg par semaine de sémaglutide sous-cutané, c'est autour de un petit peu moins de 50 $. Puis pour le Rybelsus, on parle autour de 7 $ par jour en médicaments par la bouche.
Là, il faudrait voir, le sémaglutide arrive sous peu, sous forme générique. Mais on
C'est une
ignore
bonne nouvelle.
encore à quel prix.
À suivre.
Excellent, fait que ça va être tout pour le GLP-1. Bon, en termes de médicaments, là, il y a l'insuline aussi, j'imagine. Il faut quand même le savoir, l'insuline, malheureusement, on n'a pas de bonnes études qui ont évalué les bienfaits, là, que ce soit cardiovasculaire ou autre. Puis je dis bien, on n'a pas de bonnes études. Fait que, tu sais, mettons, les DPP-4, on le sait, là. On a des études, ça donne rien. L'insuline, c'est un vieux produit, donc des études qui datent d'une autre époque. On ne sait pas trop. Fait que ça marche-tu, ça marche-tu pas pour prévenir, par exemple, les complications en micro, macro et compagnie. Difficile à dire. Il y a une étude qui avait été faite là, au début des années 2010 avec la glargine, mais les cibles, les ci, puis les ça, puis il y avait des patients prédiabétiques, puis en tout cas, ça permettait pas, là. Malheureusement, c'est une étude qui avait pour objectif de voir s'il y avait une augmentation du risque de cancer avec l'utilisation de l'insuline glargine. Fait que le mystère perdure un peu sur l'insuline. La seule étude, en fait, plus contemporaine, qui inclut l'insuline, puis qui s'est penchée sur l'utilisation de différents agents antidiabétiques, puis le risque de complications, c'est l'étude GRADE, qui est sortie en 2022 dans le New England. Une étude quand même super intéressante, parce que contrairement à ce qu'on a typiquement, c'est-à-dire qu'on compare un médicament à un placebo, puis après ça, nous autres, on essaie de faire des comparaisons indirectes, puis d'essayer, dans ce cas, d'inventer de la science. Ben ici, c'est une étude non financée par l'industrie pharmaceutique, où on a pris un peu plus de 5 000 patients diabétiques, sans antécédents cardiovasculaires, sous metformine, avec une hémoglobine glyquée entre 6,8 et 8,5 %. Puis là, ben, on les a randomisés à soit du glimépiride, donc une sulfonylurée, la sitagliptine, donc un DPP-4, le liraglutide, un GLP-1, ou de l'insuline glargine. Malheureusement, il n'y avait pas de bras SGLT2. Ça, c'est quand même franchement dommage. Là. Je ne sais pas la raison derrière ça, mais ça aurait été super le fun. Puis on a suivi ces gens-là pendant 5 ans. Puis là, ben, on essayait quand même de traiter le diabète de ces gens-là. Puis on pouvait ajuster, utiliser d'autres produits là, selon le bon vouloir du médecin traitant. Mais au bout du compte, ce qu'on a vu, c'est que ben, moins de gens ont atteint leur cible d'hémoglobine glyquée, là, fait que, en bas de 7 dans le groupe sitagliptine. Plus de gens l'ont atteint avec le liraglutide, avec l'insuline. Et tout ça me paraît tout à fait attendu et logique. Là, on le sait, c'est des médicaments qui ont un plus gros potentiel de diminution de l'hémoglobine glyquée. Mais quand on regarde les événements cardiovasculaires qui sont arrivés pendant l'étude, ben, ce qu'on voit, c'est qu'au-delà des valeurs de sucre, le GLP-1 s'en est très, très bien tiré avec une diminution statistiquement significative des événements par rapport aux inhibiteurs de la DPP-4, au glimépiride et à l'insuline glargine. Même si quand on regarde les chiffres de sucre dans les faits, ben l'insuline glargine s'en est bien sortie. Fait que c'est une étude qui vient remettre de la science sur cette fameuse idée, mais en tout cas, il semble qu'on a dépassé l'étape de l'idée, là, que juste cibler du sucre, c'est probablement pas une bonne façon de prévenir les complications. Puis tu sais, je vais vous donner un autre exemple, je trouve toujours très, très parlant. L'étude Credence. Quand on regarde l'étude CREDENCE, c'est une étude avec la canagliflozine chez des patients diabétiques néphropathes qui a démontré des bénéfices là, cliniquement intéressants là, au niveau complications micro-macro. Mais quand on regarde l'hémoglobine liquée à la fin de l'étude entre le groupe canagliflozine et le groupe placebo, ben, on a eu une différence dans les diminutions de 0,25 %. Ce n'est même pas une différence minimalement cliniquement significative entre deux hémoglobines liquées. Là. Puis on le sait, depuis, on a des études, tu l'as dit, ils avec les codes de remboursement, avec les SGLT2, on en a aussi avec les GLP1, chez des gens qui sont même pas diabétiques, puis on a montré des bienfaits X, Y, Z chez telle ou telle population. Fait que, me répète, je pense pas que juste vouloir baisser du sucre, peu importe qu'est-ce qu'on donne, c'est une bonne façon de faire. Puis là, ben, il y a des bémols, évidemment. Toutes ces études-là là, qui portent sur les GLP-1, les SGLT2, puis tout ça, diabétiques, ben, c'est des gens avec typiquement des hémoglobines glyquées entre 8 et 9 % en moyenne. Évidemment, comme dans n'importe quel domaine, les études portent souvent sur des gens moyens. Fait que c'est sûr que, tu sais, je sais pas, moi, est-ce que si on prenait une étude avec des gens avec des glyquées moyennes à 11 %, puis qu'on testait les inhibiteurs de la DPP-4, là, est-ce qu'on se passerait quelque chose? Tout d'un coup, est-ce qu'on verrait plus là, que juste des changements sur les valeurs de sucre? Je ne sais pas. À un moment donné, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Fait qu'au final, pour moi, en diabète de type 2, il y a deux choses à considérer à la base. La première, est-ce que le patient va bien? Le patient qui ne va pas bien, qui a des symptômes, ben donne-y n'importe quoi, puis ça va marcher. Hein, la théorie d'identifier des objectifs thérapeutiques avant de choisir une thérapeutique, ben c'est ça. Fait que ton patient qui est symptomatique, qui va pas bien, qui a des glycémies donc probablement pas mal élevées, ben même si tu lui donnes une sulfonylurée ou un inhibiteur de la DPP-4, tu as le potentiel de l'aider très certainement. Tu
Ça
vas
va
la...
l'aider parce que ces molécules-là, ils baissent le sucre.
Exact. Donc il va se sentir mieux. Ce qui est en soi un objectif thérapeutique qui me paraît tout à fait louable, là. Fait que ça, c'est la première affaire, amener ton patient à être asymptomatique, à être bien. Mais rapidement, typiquement, on réussit à amener les patients à une autre étape, c'est-à-dire, ils vont bien, ils se sentent bien, puis là, ce qu'on souhaite, c'est prévenir les complications à moyen-long terme de type micro ou macrovasculaire. Puis là, ben, clairement, là, la façon de le faire devrait changer. Comme dans n'importe quoi, on en a parlé tantôt, probablement que la première étape, c'est d'estimer le risque de complications. Il existe des calculateurs pour ça. Il y a le Framingham qui peut faire une partie de la job, mais qui n'inclut pas les complications micro. Il y a des calculateurs spécifiques aux populations diabétiques qui incluent les complications macro et micro. Là, j'ai clairement un conflit d'intérêts, là, mais avec Peer, on en a fait un calculateur. On pourra mettre le lien sur le site web, qui utilise en fait le calculateur ReCode, là, qui a été fait par d'autres gens bien avant nous, puis qui permet d'identifier non seulement le risque de complications macro, mais aussi le risque de développer ben, une néphropathie, une rétinopathie, des neuropathies, puis ce genre d'affaires-là. Fait qu'on peut identifier le risque de complications de nos patients. On vient de le dire, avec toute la science disponible sur nos antidiabétiques, on est capable d'estimer les bienfaits qu'on peut espérer de nos différents traitements quand il y en a, évidemment. Et on peut donc, avec nos patients, prendre une décision. Tu sais, au bout du compte, pour moi, en diabète, c'est toujours la question de, là, j'ai un patient devant moi, voici ses risques, voici ce qu'il prend, qu'est-ce que je peux lui offrir maintenant, aujourd'hui, qui a le potentiel de changer son devenir? Puis, ben, c'est là qu'on se met à penser à d'autres affaires. On peut penser aux non-pharmacaux, évidemment. Chez nos patients diabétiques, rapidement, probablement que dans nos idées, face à une question comme ça, on devrait penser aux statines, on devrait penser aux antihypertenseurs. On en a déjà parlé dans d'autres épisodes, mais on le sait, il y a des bénéfices bien démontrés de ces molécules-là, chez les patients diabétiques. Dans les faits, même, on le sait, là, chez plein de patients diabétiques, si on met ça en ordre de bienfaits, probablement que les traitements, ça devrait ressembler en ordre d'abord une statine. Ensuite, un antihypertenseur, puis ensuite seulement un antidiabétique. On l'a vu même avec nos bons antidiabétiques, là, nos GLP-1, nos SGLT2, on a des diminutions du risque relatif d'événements cardiovasculaires, par exemple, de 10 à 15 %, ce qui est probablement moins bon que nos statines, nos antihypertenseurs dans bien des cas. Fait que ne pas oublier ça. Puis après ça, ben, c'est ça va amener des réflexions, je pense, très différentes de ce qu'on voit souvent en pratique. Fait que ce que ça veut dire, c'est que tu pourrais avoir un patient avec une hémoglobine liquée à, je sais pas moi, 7,9 %. Puis je parle pas d'un patient âgé, là, avec une espérance de vie limitée, rien de ça, là. Un patient jeune et autrement en santé, si vous voulez, mais qui prend déjà toutes les thérapies ayant démontré des bienfaits cliniques, fait qu'il est déjà là, sous metformine, SGLT2, SGLP1, une statine, un antihypertenseur. Ben, dans les faits, tu n'as probablement pas grand-chose à y offrir en termes de pilule. Parce que tout ce que tu risques de faire, c'est oui, baisser le chiffre, mais tu vas te mettre à utiliser des médicaments qui ont probablement pas de bienfaits autres. Puis de l'autre côté, tu pourrais avoir un patient avec une hémoglobine liquée à 6,8 %, mais qui a des facteurs de risque de complications, par exemple rénales ou cardiovasculaires, puis chez qui, à ce moment-là, ajouter un SGLT2 ou un GLP1 a un potentiel de l'aider puis de changer son devenir, certainement. On tourne en rond, mais l'idée, c'est juste de décrocher, de mettre tout le focus sur les hémoglobines liquées, sur les valeurs de sucre, ce qu'on appelle dans certains milieux le glucocentrisme. Tu avais vu ça, j'imagine, en philo, Oli? Glucocentrisme?
Malheureusement, non.
Non? Fait que de décrocher un peu du glucocentrisme, puis d'aller bien au-delà de ça avec qu'est-ce qui marche, qu'est-ce que je peux offrir à mon patient qui diminue son risque, puis une fois que ça c'est déterminé, ben voir avec le patient, évidemment, si cette diminution-là, il la juge suffisante pour se rajouter un médicament supplémentaire. Ça
Bon.
fait-tu du sens? Il me semble que c'est...
C'est clair comme de l'eau de roche, là, tout ça.
Hein? Mais pourtant, on a encore beaucoup, 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 beaucoup d'énergie et d'efforts qui sont mis que sur des valeurs de sucre puis des valeurs d'hémoglobine liquée.
Clairement.
C'est
Mais
dommage.
toi aussi, tu mets beaucoup d'énergie et d'efforts pour passer le message.
Mais je ne suis qu'un tout petit pion dans ce grand échiquier. Qu'est-ce que tu veux? Fait que je pense que ça fait le tour de ce qu'on voulait jaser aujourd'hui. Fait que, en terminant, ben, petit message habituel, c'est des questions, des plaintes, des critiques, des commentaires, ben, on vous invite à écrire à Olivier. Sinon, ben, mon Dieu, Isa,
Oh.
c'est presque la fin de fin. Mais on se revoit à Noël.
On se revoit à Noël. Ça me permet quand même de vous dire merci pour ces dernières années, puis
C'est drôle, hein, parce que là, tu dis merci, mais moi, je pourrais sortir plusieurs moments dans ces nombreuses années, là, où
j'avais pas le goût de dire merci.
on était moins sur le versant dessus. Merci. Aïe, 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 aïe. Bon, ben, Noël, là.
Bye là.
Ciao, ciao.
Ciao.
L'information contenue dans cette balado-diffusion est à titre indicatif seulement et ne remplace en rien l'avis ou le jugement d'un professionnel.